En gros, on a perdu l'enregistrement à partir où on a marché dans le jardin. Et qu'est-ce qu'on racontait? On racontait l'histoire. Ah oui, donc
je crois que...
Oh putain, gueule. Putain, c'est balèze, hein. Donc il y a l'histoire, on va dire, l'histoire 1, les voies du père autour de l'ésotérisme. Et son enfance au Bénin autour de son père et de son grand-père autour des savoirs magicaux, médicinaux, de ses rapports aux fétiches et le rapport en même temps ésotérique du père et en même temps son rapport politique et donc ça c'était donc un ensemble de choses dans laquelle je baignais. Comment je vais expliquer ça là, c'est chiant ça. Mais faut m'aider là parce qu'en même temps, parce que là je sais très bien qu'à un moment donné on a marché, on a parlé.
Il a trouvé son chemin vers la victoire.
Vous êtes à
10-10.
10-10, il nous reste 10.
Reconcentré là.
On va faire un petit tour du jardin.
Ça va les Anglais, non?
Yves, allez-y.
Non mais on se rapproche petit à petit. C'est juste pour être dedans et puis se sentir à l'aise et puis parce que là je me sens pas vraiment à l'aise.
Donc on s'est quitté hier soir dans des conditions sensiblement différentes.
Très différentes.
Il était tard, on était un petit peu fatigué.
Là, il n'y a plus grand monde. Tout le monde est un peu parti.
Voilà. Il fait plus nuit.
Il fait jour.
Et tu nous parlais d'Anne-Marie et du regard qu'elle était susceptible de porter sur ton père.
Anne-Marie, quelle avait... Ça, je sais pas. J'ai le sentiment... Ah, bonne question. Alors là, putain. Alors, je pourrais pas te dire. Je crois que je vois Anne-Marie comme vraiment ma voisine avec qui j'ai eu... avec qui on s'est amusé, etc. Mais par contre, j'ai jamais pensé qu'elle pouvait penser quoi que ce soit de mon père, quoi.
Tu penses que c'est possible qu'elle ait rien pensé de ton père?
Non, je pense qu'elle a dû penser de mon père à un moment donné où quand mon père s'est engueulé avec ses parents, que soudainement, elle a dû avoir une pensée de mon père en termes de quelqu'un qui est un peu parano. Mais...
Pourquoi ils se sont engueulés?
Qui ça? Les parents de...
Anne-Marie.
Ouais, mon père a porté plainte contre elle.
Contre qui?
Contre les Lagrées.
Que...
Une histoire de véranda, et de murs, de mitoyens, etc. Mais mon père commençait à être un peu parano.
Ils étaient amis, il a porté plainte contre eux.
Ouais, mais ils sont fâchés entre temps, puisqu'en même temps, il y avait Jacqueline Lagré qui, en même temps. C'est un couple de profs universitaires. Mon père, à cette époque-là, était au chômage, il avait eu un rapport, même s'il avait Il aimait beaucoup lire, etc. Mais il avait, je pense...
Il lisait Spinoza ?
Non, mon père, il n'était pas du tout dans un rapport philosophique. Il était vraiment dans un rapport mystique, hein. Enfin religieux, enfin... je sens en tout cas, il y a eu un complexe intellectuel de la part, je pense à moi, de la part de mon père vis-à-vis d'eux. Mais c'est un complexe dans le sens c'est que, puis même, je pense qu'il y avait une sorte presque une histoire même. Parce que toi, en même temps, Jacqueline Lagré, t'es même déjà venue, mais t'es déjà venue chez nous par elle-même en ouvrant la porte parce que la télé était allumée. Était restée allumée.
La télé.
La télé était restée allumée. Elle était dans le jardin, dans son jardin à elle. Elle devait bouquiner, etc. Puis elle avait entendu la télé. Puis nous, on laissait les portes ouvertes vachement. Enfin, c'était très, très ouvert. Elle s'était permis de rentrer dans notre baraque et d'éteindre la télé. Et je pense que.
Pourquoi ?
Mais après, c'est dans l'idée, c'est toi, je pense que là-dessus, est-ce que Jacqueline Lagré avait presque une vision, peut-être toi, de vouloir faire une sorte d'éducation un peu. Mais en tout cas, c'est comme ça que mon père a pris ça, enfin, de cette manière-là. Quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Une sorte d'éducation.
Personne n'a regardé à ce moment-là.
Non, mais elle a éteint devant je crois que c'était mon frangin qui était, sous la véranda, mais qui voyait la télé. Enfin, il était sur la véranda et dans le jardin, mais assis, qui pouvait voir parce qu'il l'a vu, Jacqueline, éteindre la télé et repartir. Et donc, ça avait énervé mon père, quoi. Je dis, mais pour qui elle se prend, quoi ? C'est bizarre, en même temps mon père a pris Jacqueline Lagré comme une nana qui voulait aussi sortir avec lui. Tu vois. C'était assez bizarre. Hein. Enfin, soit, Et mon père qui je pense qu'il aimait bien voir croire qu'il y avait des femmes pouvaient le séduire.
Que la télé ça avait été une manœuvre subtile.
Non parce que je crois que mais tu vois en même temps après c'est moi qui peut-être interprète complètement mal mais tu vois je me rappelle il a dit ouais mais je sais aussi que j'ai refusé aussi à un moment donné ses avances et donc c'est pour ça qu'elle a peut-être toi elle s'est
c'est pour ça qu'elle est venue éteindre la télé.
Non c'est pour ça qu'elle a peut-être commencé à être un peu énervée contre lui contre et puis qu'elle a commencé à vouloir avoir une sorte de jugement un peu moral etc. Mais ça, j'en sais rien, tu vois, c'est vraiment une histoire de... Parce que moi, en tant qu'enfant, je me souviens très peu de mon père. J'ai vraiment un trou, hein. J'ai des trous. En plus, mon père, c'était bizarre parce que mon père, même moi, là, je dis, mon père était au chômage pendant plus de 12 ans, même presque, enfin 15 ans. Aussi. Et je sais pas ce qu'il fait. Je sais qu'il est allé au tiercé, qu'il a dû faire des formations, qu'il a fait des stages, mais je sais pas ce qu'il a fait de mes puisqu'il est tombé au chômage quand j'étais en CP de mes 6 ans jusqu'à ma seconde première. Je ne sais pas ce qu'a fait mon père dans sa vie, je ne sais pas, c'est un trou quoi. Il était là, il nous a fait à manger, on est parti en vacances avec lui, on est parti en Afrique avec lui. Mais sa vie à lui, je ne sais pas ce qu'il a fait pendant toutes ces années.
Finalement, le secret de la matière. Les secrets de la matière.
Le secret de la matière ou le secret de la matière, je ne sais plus.
L'énigme de la matière. Jean-Philippe apprécie cette lecture également.
Ouais.
Ton père est intervenu beaucoup dans sa découverte, tu crois ?
Non,
parce quelle image il se faisait de ton père ?
Bah, il avait un peu peur de mon père. C'est, et en même temps, il l'aimait beaucoup. Il était un peu aussi, mais il était un peu aussi fasciné, un peu aussi, que, un peu aussi impressionné, quoi. De, je pense que lui était impressionné et nous, on était hypnotisés. Et d'un seul coup, justement, ça devait être en seconde, là, quelqu'un nous dit, il y a un mec qui a écrit un bouquin, un roman, alors que Jean-Philippe et moi, justement, plus on était ensemble, plus on parlait d'écrire des livres, etc. Et bien sûr, tout, on dit qu'il y a un mec qui a écrit un roman en utilisant le concept de la relativité d'Einstein. Je savais pas qui c'était, et je dis putain, un mec a fait ça, alors que c'est vachement fort, etc. Et toi, je connaissais à peine, même j'ai beaucoup moins de connaissances de l'époque du 19e. Enfin, tu me dis, j'en connais. Disons que ma carte s'est agrandie, mais je lui dis, ouais, il y a un mec qui a fait ça, etc. Et puis je connaissais très peu ma mythologie, enfin, je la connais pas non plus tant que ça, mais j'en connaissais encore moins. Et ça, c'est Ulysse, quoi.
C'est pas Ulysse.
Et donc c'est Ulysse de James Joyce. Donc c'est un roman où c'est le roman de James Joyce. Je connaissais pas du tout à cette époque-là, je connaissais ni Fanagan's Wake, ni Les Morts, ni rien. Je savais que c'était Ulysse. Et c'était un mec qui avait écrit justement l'histoire d'une journée d'un type, mais en utilisant que par exemple que dans son bouquin qu'il allait avoir. Là, je découvrais aussi le cubiste à ce moment-là aussi. Un même moment, même situation, allait raconter de plusieurs manières différentes, mais comme si à chaque fois, ce qui se passait à ce même instant, il se passait, comment dire, l'événement, c'est, évidemment, il y avait le côté s'interpréter d'une différente manière. Et était, comme s'interpréter, était vu autrement. Et
était,
la victoire est d'ores et déjà acquise.
Et c'était, n'était pas le même, était le même sans être le même.
Impeccable.
Tu vois, et dans le sens, et alors pour bien expliquer qu'il a, alors comment dire que comme Ulysse utilise vraiment la relativité d'Einstein, c'est qu'il a vraiment considéré vraiment que. Il a vraiment considéré que la question du temps et du temps et de l'espace qui se contractent, enfin qui sont collés, qui sont inséparables. Et dans l'histoire de Stephen et Léopold Bloom, où tu t'aperçois qu'il prend un peu cette question-là, mais c'est très cubiste en fin de compte. Hein. C'est très. Il prend en fin de compte la même méthode que, par exemple, que à cette époque-là, les cubistes qui font sur l'escalier. Tu vois, tu sais pas si c'est plusieurs personnes qui descendent, ou une même personne qui descend l'escalier. Enfin bref, tu as une silhouette, je sais plus comment elle s'appelle, cette silhouette de cette peinture-là, le cubiste. Mais qui nous montre un même événement, mais sous différents espaces, ou différents temps, en fin de compte, et pourtant c'est le même. Et pourtant ça fait un truc complètement déstructuré, enfin un cubiste, quoi. Et c'est cette même période en même temps, et ça reprend vraiment la question de l'ouverture du sens, l'infinité des interprétations, l'infinité d'un texte ou d'un événement, etc.
Selon toi,
j'ai découvert en même temps la littérature, justement, grâce à ça, je pense. J'étais plus dans des rapports symboliques de vérité, symboliques de fièvre vérité, des divins, etc. Soudainement, avec Ulysse, tout s'est mis dans un terme, en fin de compte, de littérature. Tu vois ce que je veux dire? Parce que avant, il y avait tout un mélange, il y avait vraiment tout un mélange de rapports religieux, de rapports scientifiques, mais plus ou moins allégoriques, plus ou moins divins dedans, etc. Et d'un seul coup, avec Ulysse, tout se rabat sur l'énorme question de la littérature. Et là, ça, c'est la littérature prend le pas sur tout, en fin de compte, d'une certaine manière. Parce qu'elle peut, elle peut être capable de mélanger toutes les sortes de discours possibles. D'oralité, de rapport scientifique, allégorique, artistique, enfin tout. Elle pouvait mélanger toutes sortes d'énoncés. Ulysse devient cet objet qui m'ouvre justement à... Tu vois, il y a un passage, un rapport à la matière, rapport scientifique à la matière, où il y avait un rapport plus ou moins mystique relié avec justement l'alchimie, en même temps justement de la voix du père sur les rapports fétiches, sur la magie, etc. Et petit à petit, je vois Einstein, je lis la partie, le tout, justement, d'Heisenberg, ou tout, de l'incertitude, la principe d'incertitude, ça garde le secret de la vie dans un rapport plus ou moins. Et ça me satisfaisait, sur ce moment-là. Ça me satisfaisait. Donc, il y avait tous mes échanges-là, et d'un seul coup, il y a un bouquin, Ulysse, qui raconte la vie d'une humanité. Il prend une journée d'un mec et il va raconter l'histoire un peu de toutes les humanités à travers et ça, j'ai découvert ça avec Ulysse. Et là, j'ai trouvé ça énorme. C'était une sorte de fin d'après-midi où il y avait mon père, mes frangins qui étaient dans le salon. Je dis à mes frangins et
à table.
À table. Non, on était plutôt sur le canapé, il y a mon père qui parlait, etc. Que tous ces rituels où on s'est retrouvés, mes frangins et moi, sur le canapé, devant mon père qui parlait, qui racontait des histoires.
Donc tous les trois sur le canapé, ton père
ouais,
face.
Dans le salon, tous les trois, plus ou moins, et d'un seul...
Vous assis, ton père debout ?
C'est à peu près ça, même si je considère que moi, à un moment donné, je me suis levé, j'étais près de la véranda, c'est là que j'ai commencé à dire, et mes frangins étaient assis, et mon père ça, était toujours à debout, et peut-être, alors, c'est comme ça que je vois le truc, je sais pas si mes souvenirs sont vraiment très justes. Et il s'asseyait, et comme d'un seul coup, c'est là que j'ai dit d'abord, c'est bon, je l'ai trouvé le Graal, je l'ai trouvé cette pierre philosophale, je l'ai trouvé, et ah yes, c'est bon, je suis immortel. Et là, mes frangins me regardent, mon père me regarde. Je dis, mais pourquoi tu dis ça ? C'est pas vrai, qu'est-ce que t'as fait, etc. Quoi. Comme si, d'un seul coup, peut-être que ça a été aussi ma véhémence de dire un tel truc, mais j'en avais marre d'un truc, de sentir une sorte de malaise de superstition. Peut-être que j'étais tout seul à ressentir ça, j'en sais rien. Je dis voilà, j'en ai marre. Et puis en même temps, mes frangins n'y croyaient pas. Je dis mais ça veut dire quoi ? Bah vas-y, montre-nous comment tu l'as trouvé, le Graal, comment tu l'as trouvé, la pierre philosophale, etc. Et puis je dis non, mais c'est bon, je l'ai trouvé, ne me demandez pas, je l'ai trouvé, c'est bon. Et ça les a énervés parce qu'il fallait que je dise. Et moi, ça me fait dire parce que je savais.
Tu faisais allusion à Ulysse.
Et là, je faisais. Dans le sens, pour moi, je savais que le grand œuvre, c'est la question du grand œuvre, je l'avais parcouru avec Ulysse, parce que j'avais tellement été impressionné par ce livre.
C'était Ulysse ou c'était pas Ulysse ?
C'était Ulysse de...
C'est à ça que tu fais allusion.
Dans ma tête, quand je parlais de tout ça, je pensais à Ulysse. Je pensais à toutes ces choses-là, où Ulysse devenait une sorte de point d'orgue de... D'abord, oui, le grand œuvre, il existe et c'est celui-là d'une certaine manière. Et ça me permettait, à la fois, ça me disait, et ça me permettait vraiment de dire oui, je l'ai trouvé.
Well, you know, don't you, Kenneth, or haven't I told you, every telling has a tailing, and that's the he and the she of it. Look, look, the dust is growing. My branches lost, you're taking root, and my cold chair's gone ashly. Filou. What age is that? It's soon as late. 'Tis endless now since I ere one last saw Waterhouse's clock. They took it asunder, I heard them sigh. When will they reassemble it? Oh, my back, my back, my back. I'd want to go to Aixley Pain. King time, there's the bell for sex alighters. A concept of this end of spray. Time. Ring out the clothes, ring in the dew. God of Ari, vert the showers and grant thy grace. Come on. Will we spread them here now? Aye, we will. Flip. Spread on your bank, and I'll spread mine on mine.
Mais quoi, j'étais bien plus dans la lecture de Joyce, dans une sorte de fantasme, du fantasme intellectuel de concept. Et après, c'était très difficile. C'est très difficile. Hein. J'ai pas pris tant que ça de plaisir à lire hein, Ulysse. C'est très difficile à lire. Et tu prends donc, tu pioches essentiellement des passages.
Les secrets de la matière, Ulysse, etc. Tu les lisais où? Dans ta chambre?
Dans ma chambre ou en bibliothèque.
Ça ressemblait à quoi ta chambre?
Elle était toute petite. Elle était bleue. Il y avait une fenêtre qui donnait sur les immeubles, stock, d'autres immeubles au loin. Et mon jardin en bas, mon jardin derrière. Et j'avais une mini chaîne. Et à cette époque-là, j'avais des mini chaînes en un seul bloc où j'écoutais ma musique. Et je bouquinais.
T'écoutais quoi?
À cette époque-là, j'écoutais. Ouais, j'écoutais Prince, c'est ce truc-là. Ouais. C'est là qu'on... Parce que c'était le même période où Jean-Philippe et moi, on était partis aux Deux-Ez, dans ma maison de campagne.
Et, c'est où
aux Deux-Ez, à côté de Pontivy, à Cléguérec, à côté de Pontivy.
C'est où Pontivy?
Et au centre de Bretagne.
La Bretagne.
C'est dans cette ferme-là de ma grand-mère.
Bretonne.
Et ça, je pense aussi que c'est
petite Bretonne.
Petite Bretonne. Et ça aussi, putain, mais ça, j'avais oublié. Hein. Ma grand-mère, je pense qu'aussi une grosse partie de. Parce qu'en même temps, là, tout ça, c'est sous le joug évidemment du père qui réapparaît. Mais il y a aussi le joug de la grand-mère qui, pendant. À l'âge de 10 ans. Ma mère, à l'âge de 10 ans, a vu sa mère partir à l'hôpital psychiatrique. Je pense que c'était quelque part un traumatisme de ma mère qui était énorme. Et ce qui s'est passé, c'est que mes grands-parents, mon grand-père avait fait l'école jésuite, puis après il est allé partir à l'armée. Et il a fait donc la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il s'est marié avec ma grand-mère. Ma grand-mère et mon grand-père se connaissaient un petit peu parce que le frère de ma grand-mère connaissait mon grand-père. Mais ils ont 10 ans d'écart. C'est-à-dire que quand mon grand-père est parti, genre il est parti, il devait avoir un truc comme 19, attends, un truc comme ça, ou 20 ans, voilà. Ma grand-mère avait 8 ans. Ils s'étaient déjà vus. Mon grand-père revenu, genre 8 ans après la guerre. Ma grand-mère devait avoir 18 ans. Et ils se sont mariés. Et ça a été, je pense vraiment, parce que mon grand-père, lui, il a perdu. Il a perdu son père à l'âge de 10 ans aussi. Ça a été une sorte de relation hyper dure, mes grands-parents. Mais genre, mon grand-père militaire, avec une morale catholique la plus, on va dire, rigide, a dû imposer à ma grand-mère, à qui on a imposé de parler français dès sa jeunesse, dès son enfant, alors qu'elle parlait breton à ses parents. Donc elle avait une honte à parler breton. Et en même temps, elle est allée seulement jusqu'à au CM2 ou certificat d'études, c'est quoi? C'est combien? C'est CM2 ou c'est 3e? Ouais, c'est CM2, quoi. Et pour moi, je pense que c'est comment... Et ça, je veux vraiment faire des mêmes un film, mais comment une femme, à qui, dans son enfance, on lui dit de pas parler breton, c'est-à-dire sa langue maternelle, pour se faire comprendre à ses parents, on lui inflige un français, mais jusqu'au certificat d'études, ça veut dire jusqu'au CM2. Comment après elle va avoir des outils linguistiques pour pouvoir reconstruire des géographies nouvelles lorsqu'elle va partir. Et c'est là, si t'as pas d'outils, comment tu fais? Et je pense qu'à un moment donné, ça a été, alors que elle était face à un mec qui était parti en Indochine, qui était parti en Allemagne, qui lui infligeait des géographies lointaines tout le temps. Et qui, elle, était restée en Bretagne, et en même temps avec un outil linguistique qui, quelque part, lui donnait pas la possibilité de réellement maîtriser des nouvelles formes géographiques, des nouvelles combinaisons à recomprendre la géopolitique, les époques, les générations, de façon même poétique, mais dans l'espace. Et ça, je pense vraiment... une des raisons pour laquelle, à un moment donné, elle écrivait, elle essayait d'écrire à fond, elle essayait de lire aussi, mais c'était très particulier, c'est une forme d'hystérie particulière. Et mon grand-père, et ça c'est de l'horreur, a demandé à un prêtre catholique de savoir à un moment donné quand ma grand-mère n'allait pas bien. Elle est partie, à un moment donné, elle a éclaté, elle est partie de chez elle, nue, dans la nuit.
Comme Anne-Marie, quoi.
Comme Anne-Marie. Ouais. A essayé de redécouvrir sa peau, l'espace et le côté, cette nouvelle tension épidermique qu'elle peut avoir avec le dehors, même si elle n'a pas d'outils pour peut-être nommer cet inconnu. Et justement, comme elle n'a pas d'outils, elle a d'autant plus l'angoisse de ne pas y arriver. Donc elle part nue, parce qu'elle veut que ça soit à fleur de peau. Mais évidemment, ça va pas être, on va considérer ça comme une pathologie. Et le pire, mais il ne va pas avoir un psychiatre, mon grand-père. Il va avoir un prêtre. Un putain de prêtre. Et le prêtre lui dit de l'envoyer, de l'interner dans un hôpital.
Tu gères un peu. C'est ta mère qui t'a raconté ça?
Ma mère, ma tante. Non, parce que je me demandais, et puis ici, mon oncle aussi. Hein. Ils ont souffert parce qu'ils sont allés voir après leur mère. Et à cette époque-là, la psychiatrie, c'était... les internements, c'était On l'avait foutu, et ça c'était ma tante qui était, et mon oncle qui avait vu leur mère. On l'avait foutu dans une pièce, et toi, on ouvrait un shop, et on foutait la bouffe en par en dessous, et on tac, et puis et l'autre, et puis il y avait de la paille dans les trucs, parce que c'était pas du tout, c'était dans les années 60. Hein. C'est un truc. Un truc délirant, mais complètement délirant, quoi. Alors que je pense que peut-être ma grand-mère, c'était tout sauf ça qu'il lui fallait, quoi. Mais tout sauf cette putain d'internement.
Merci.
Can I get less of my guitar?
Et qu'est-ce que... Et après, d'ailleurs, mais bon, après, ma mère qui devient infirmière psychiatrique, ça devient... taré, mais je pense que c'est pour ça que, quelque part, faut surtout pas croire, par exemple, quand je parle après, que mes frangins sont reliés plus à un rapport ésotérique et qui est vachement relié au père. Pas du tout. Enfin, dans son rapport peut-être de crise, de... C'est un rapport bien plus, maternel. Hein. C'est clair. C'est un entre-deux. C'est le clivage qu'on fait. L'apprentissage du clivage qu'on fait avec entre son père et sa mère.
Tu reparles d'ésotérisme, je me suis dit aussi hier soir que évoquer le grand œuvre sans balancer le folio du lys sur la table, c'était comme écrire sur les corps nus de tes frangins.
Ah putain, mais carrément. Et encore, et on revoit le corps nu de la grand-mère, et on revoit. Et celle de Anne-Marie, enfin, le corps de s'écrire. Ça marche. Carrément, le fait de ne pas dire. Ouais. Mais c'est là, je pense que c'est ça. À un moment donné, il y a une sorte d'absence. Il y a une sorte d'absence. C'est vrai, pourquoi tu te dis pas? Pourquoi à un moment donné tu te dis pas? Je dis pas que c'est Ulysse à ma famille. Pourquoi? Mais tu sais pas si c'est du silence ou imposer une écriture. C'est vrai, ou une écriture dans le silence que les autres doivent se faire et que toi-même tu dois te faire. Une écriture ou un sens, un devoir de sens que tu dois te faire, mais une écriture, un langage, quoi. Et ça, c'est ça le corps nu. C'est ça, ce moment-là, ouais. Et que quelque part j'ai imposé à moi-même et à mes frangins et à mon père aussi à ce moment-là, quoi. Il faut créer, enfin, faut écrire sur son corps. Et ça se fait peut-être dans le silence, peut-être, oui, justement aussi. Mais pas dans le fait de mettre un mystère, justement. Parce que moi, quand j'ai dit ça, j'étais pas peut-être dans l'idée de mon père qui dit c'est un mystère, il y a une initiation pour plus tard, vous inquiétez, peut-être qu'un jour vous allez peut-être connaître les mystères de ces fétiches. Mais même si en même temps je considère que on utilise ce rapport au corps nu et le mystère, la notion du secret ou du mystère est vachement reliée, justement. Ça me plaît bien, ça, ce truc-là, parce que je pense que ce corps nu et en même temps l'idée de garde, ça garde le mystère en même temps. Quand j'ai rien dit à ma famille, c'était pile poil, enfin c'est mes frangins et mon père, c'était pile poil. En même temps, je me sentais presque comme mon père qui gardait un mystère, justement. Mais en même temps, moi j'avais le sentiment, non, au contraire, mon affirmation était directement sans mystère pour elle-même. Mais la manière dont c'était dit, c'est ça devait imposer à chacun un devoir de sens qui restait mystérieux pour chacun. Mais pour moi, ça n'était plus. C'était un plein et un vide en même temps. Alors que peut-être que mes frangins, eux, ont toujours considéré ça vide. Il fallait toujours le remplir, mais ils ne savaient pas qu'il fallait que ça soit eux qui le remplissent par eux-mêmes. Qui s'écrivent sur leur propre corps nu. Et donc, ils étaient toujours dans une quête où l'extérieur allait leur réclamer cette chose-là. La question, pour moi, la question des voix, quand on entend des voix, c'est, est-ce que c'est une écriture qu'on considère que c'est on dit que c'est un truc, les voix, si on se dit c'est quelque chose d'extérieur qui te persécute, qui te dit en toi, est-ce que c'est est-ce que quelque part c'est ne pas arriver à comprendre son corps plein et son corps vide, quoi. C'est assez particulier, quoi.
Mais quand tu découvres Finnegan's Wake, ça se dénude, t'as l'impression que ça se dénude? Parce que le fait est que... Ça s'est passé comment, là, les physiques, en seconde? Après les révisions.
Bah, très bien, enfin, justement, là, cette année-là, moi, j'étais premier de ma classe, enfin, justement.
Et Jean-Philippe,
quoi. Jean-Philippe, non... moins, parce que justement, lui, il était moins dans un rapport relié. Il avait peur, justement. Enfin, lui, il voulait plus s'amuser en termes d'un. Il était beaucoup moins justement relié à ce rapport de magie, d'ésotérisme, de rapport au symbole, de rapport. Il s'en foutait littéralement. Et donc, en même temps, il a eu de très bonnes notes, mais en même temps, il s'est petit à petit détourné à l'idée de vouloir être le premier de sa classe ou un truc comme ça, quoi. Il voulait même, à un moment donné, il s'en foutait littéralement, quoi. Et c'est pour ça qu'il a commencé à rencontrer Nicolas, etc. Et moi, je me suis senti là en retrait par rapport à ça.
Ça n'a aucun rapport.
Il faut comprendre. 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 Il faut
comprendre. C'est le moment où, aussi, justement, quand j'ai rattrapé. J'ai vu justement cette crise fraternelle et paternelle où je m'éloignais d'eux. J'ai pu justement aussi me re-rapprocher de Jean-Philippe.
T'as pas fait d'études supérieures de physique-chimie ?
Non.
Mais Finnegan's Wake, c'est dans le commerce.
C'est vrai.
Et donc, est-ce que les corps se dénudent à ce moment-là ? Comme les langues se dénudent, même dans le solécisme, dans le... Même dans le... Même dans le... Même.
Même dans le même. Bah justement avec Finnegan's Wake, ça a été.
Vas-y répète.
Il est allé jusqu'au bout, là Joyce, mais vraiment jusqu'au bout quoi. Les langues se dénudent, tous dénudent. Mais utiliser 40 langues pour écrire un roman, quoi.
Non, ok. Prends pas à partie le public, s'il te plaît. Il y a des règles dans le
catch. Putain, t'as un mec qui. Il utilise 40 langues pour écrire un roman.
Non.
Pendant 17 ans, il va écrire son roman. Non, mais pour la question, si les corps se dénudent. Mais...
Parce que tu connais pas les lettres de Nora Bloom au moment où tu lis Ulysse.
Et j'ai lu les lettres de Nora Bloom beaucoup plus tard. J'avais dit un truc qui me paraissait intéressant, c'est l'idée où à la fois...
Hier soir.
Ouais, hier soir. C'était, je faisais une sorte de parallèle. Enfin.
En même temps, on peut pas revivre de la même manière ce qu'on avait écrit hier soir.
Non, mais là, je vais essayer de peut-être vous synthétiser un peu, mais...
C'est irrécupérable.
Il va falloir faire le deuil de ce qu'on n'a pas réussi à enregistrer hier.
Comme un peu tous les jours d'une vie.
Comme un peu tous les jours d'une vie. Mais...
D'homme ou de femme.
Là. Ça, c'est clair. Et de femme.
Faire le deuil de ce qu'on n'a pas enregistré.
Non, c'était le côté où j'étais amoureux de Julie Durand. Je la raccompagnais tous les jours.
Quel rapport avec Nora Bloom ?
Mais justement, j'en reviens. C'est l'idée quand même.
J'y reviens.
je la raccompagnais 2-3 fois par jour, 2-3 fois par semaine.
Tu reviens de chez Julien en fait.
Non, c'est mais on ne s'est jamais embrassé. Il n'y a jamais eu de. Parce que tu vois, il y a corps nu, mais en même temps, corps qui se touche. et par contre, et je parle de ça. On ne s'est jamais embrassé avec Julie. Et par contre, il y a cette histoire. Je parle de Sabine Leroy à un moment donné parce que à cette même période où je connaissais Sabine Leroy, que c'était une jeune fille, mais voilà, j'ai cru comprendre par oui dire qu'elle aurait bien aimé sortir avec moi ou enfin tout ça, mais je savais à peine, etc. Et ce qui se passe, c'est que je sors du collège, je rentre chez moi à pied et
quel rapport avec Julie Durand?
Bah attends, et je rencontre et je pars tout seul chez moi à pied et au loin sur le chemin je vois Sabine Leroy et je me dis tiens, bah pourquoi pas. On se dit pourquoi on s'embrasserait pas quoi. Et c'est là que c'est un truc vachement bizarre, parce que je la vois loin et elle me voit. Et on va à notre rencontre petit à petit. Et quand je la rencontre, on parle un tout petit peu et on s'embrasse. Et par contre, plus j'y repense, je me dis, est-ce que c'est moi qui ai forcé la main à embrasser la personne? Ou non, enfin, elle a accepté aussi et on s'est embrassé pendant longtemps. Puis après, on s'est reséparés, j'ai continué sur mon chemin et je ne l'ai pas revu après. C'est que ce qui était vachement bizarre, c'est que j'ai pu réussir à embrasser quelqu'un que je ne connaissais pas, enfin, ce que je connaissais bien, mais je ne l'ai jamais raccompagné, il n'y a jamais eu aussi facilement. Et une autre auquel j'étais amoureux s'est jamais embrassé. Pourtant, je la raccompagnais tout le temps et j'écrivais sur elle, etc.
Sur elle?
Aïe. J'écrivais dans mon journal à propos d'elle.
Quel rapport avec Nora Bloom?
Bah, c'est cet espace peut-être de... C'est cet espace peut-être de où je ne comprends pas. Est-ce que c'est compréhensible ce rapport amoureux ou au moment, qu'est-ce qui fait que on touche l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a... Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je pense que le moment où on touche l'autre, vraiment il y a un nouveau présent se met en place. Et je pense que j'ai pas réussi à embrasser. Mais par contre, elle me faisait écrire. Elle me faisait écrire. Sabine, elle me faisait pas écrire ni rien, mais j'ai réussi à l'embrasser. Alors, on pourrait très bien dire que là-dedans, il y a un rapport très catholique, le côté si c'est amoureux, donc c'est...
Et donc, vous allez à la piscine?
Non, ça, c'est encore une... Allez, une autre. C'est là où... là, c'était en quatrième... Non, c'était même avant, ça. C'est bien avant, quand j'étais en cinquième, un truc comme ça.
Refais le pont.
Ouais, mais là, c'était...
Dernier pont, après, c'est fini.
Non, mais pour dire, là, Sabine, je l'aime pas et on arrive à se toucher.
Sabine?
Sabine Leroy?
Je sais pas, moi. Et... Tu sais, je me souviens de rien de ce qui s'est passé hier soir.
Ah non, mais c'est possible. Non, mais... Oui, mais toutes tes intentions, moi, je regarde.
Sabine Leroy, c'est qui ça?
C'était une jeune fille au collège que j'avais remarqué, même dès ma sixième, que je connaissais dès ma sixième, etc. Sixième, cinquième, mais elle n'avait pas pris une place en moi de rapport amoureux, elle avait pris une place en moi de. Je sais pas, de. Un rapport féminin étrange. Mais je me suis toujours un peu étonné sur. Sur.
Don't know how I feel today. I feel the same as yesterday. Five hands calling up my back. Thump, thump, have a heart attack. And oh, hey, well, okay. Aren't you gonna ask me what I did today? I'm going up and down. Hit the ground. Black and white. Why can't it be right? And oh, hey, well, okay. Aren't you gonna ask me what I did today? Got a pumpkin and a tree and a ideas all flowery. You got a joke, a smoke and punctuation, but not enough time for conversation. And oh, hey, well, okay. Aren't you gonna ask me what I did today?
Tu veux faire un truc genre tirer à la corde ou lancer de trou.
C'est comme s'il y avait une sorte de schisme entre le fait que, je sais pas si tu as déjà eu ce sentiment là, mais j'imagine justement c'est le rapport à quel point quand
un schisme.
Quand t'es... Tiens, une question que je vais te poser, tiens.
Tu renverses pas les rouges, s'il te plaît ?
Non, mais peut-être que c'est un besoin de transfert. Mais c'est pas grave. À quel point, toi, ton sentiment amoureux, par exemple, a fait que tu ne... À quel point ton sentiment amoureux a fait que tu ne réalises pas un rapport physique avec la personne ? Tu comprends pas ce que je veux dire ? Non, fais pas ton psychanalyste. T'as le droit aussi de répondre, même si je fais un transfert. Non, tu veux pas répondre, quoi.
Explicite.
Non, mais ce que je veux dire, c'est pourquoi, à un moment donné, le côté amoureux, il y a une sorte de moment estatique où tu touches pas l'autre, quoi. Enfin, où tu veux pas toucher l'autre. Où pour toi, il y a une sorte de paralysie ou d'inhibition ou ce que tu veux. Mais, et puis, tu sais même pas si t'as envie. Je veux pas aller dans un rapport romantique dans ce truc-là. Je dis que c'est cette tension que donne le rapport amoureux qui fait que quelque part tu ne touches pas l'autre. C'est comme si ça te donnait une sorte d'éveil particulier où justement cette tension à être amoureux te donne une tension simultanément d'être, enfin proportionnellement à être inhibé, à pas vraiment t'abandonner à l'autre. Et plus t'es amoureux, plus tu te... Plus tu as une retenue, quoi. Et c'est pas une... Je veux pas être dans un rapport romantique. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi à un moment donné, j'ai eu des rencontres justement où il fallait que je, quelque part un peu en moi, que je dépossède un peu ce rapport amoureux, enfin que je le mette de côté. Et là, ça a été Sabine Leroy, ou ça a été lorsque j'étais en 5e avec la personne dans la piscine, pour que je puisse vraiment m'abandonner. Dans la piscine. Dans l'eau, peut-être. Ouais.
Qu'est-ce qui s'était passé ?
Dans l'eau, en plus, c'est vrai que c'était très bien. Je me rappelle très bien d'avoir plongé vers elle dans le petit bain d'avoir essayé de prendre son corps. Moi, j'étais en 5e, elle était beaucoup plus grande que moi, elle était assez forte. Enfin, plus.
Assez forte.
Assez. C'est
une constante, ça, quand même.
Ouais. Ouais, c'est vrai.
Vous étiez là par hasard ? Dans la même piscine ? Dans la même eau ?
Non, c'était une compétition de piscine. Non, et après, c'est...
Vous étiez où ?
Je sais plus, dans une piscine à Dinard ou Dinan ou Saint-Malo, je sais plus trop exactement. C'était une compète.
Et tu pratiquais quoi comme nage ?
Le crawl, je sais plus quel... Là, j'étais en 6e, c'était le dernier... Je crois que plus ou moins ma dernière année où... de compétition de piscine où je sentais que il aurait fallu que je fasse de la sport-études pour vraiment commencer vraiment, parce que j'étais 3e d'Ille-et-Vilaine et 7e de Bretagne en natation, donc je commençais à avoir un niveau plus ou moins intéressant, mais soit je me mettais à faire sport-études en 6e, 5e.
Pour être au taquet.
Au taquet. D'ailleurs, je me rappelle, parce qu'à ces mêmes périodes-là, il y avait Nicolas Druzon, qui est lui et toi, je crois qu'il y a 8 ans, enfin, avant-dernier Jeux Olympiques, il y était, quoi. Et moi, il avait mon âge, quoi. Et on était. Moi, je le battais en dos, il me battait partout, en crawl, en brasse. Enfin, il était hyper fort, parce qu'il était. Lui, il faisait sport-études, et lui, en même temps, c'était un mec de Dinard. Et il faisait des entraînements de fou, quoi. Mais en même temps, voilà, quoi. Je savais que c'était lui qu'il fallait que je. Que Nicolas Druzon, c'était celui qu'il fallait que je batte, quoi, en natation, quoi. Ça, c'est vrai que c'est sont des. C'est vachement important.
Nicolas Druzon, il avait quel rapport avec.
Aucun. Avec. Par contre, tout va.
Avec qui déjà?
Mais la personne. Toi, que j'ai eu une des premières relations sexuelles quand j'étais en 6e ou 5e, c'était une nana. Je ne me souviens pas de son nom, ni de son prénom. Il y a un côté vachement...
La fille de la piscine ?
Ouais.
Si, quand même.
Non, c'est pas Sabine Leroy.
C'est pas Sabine Leroy ?
Non ! Ça fait choix
que... Nicolas Druzon, il s'intéressait pas à Sabine Leroy.
Ça devient très fort, là. J'adore. Non. Non, pas du tout. Sabine Leroy, ça a été c'était en 3e. La nana de la piscine, c'est quand j'étais en 6e, 5e. Et
c'est la nana de la piscine qui a pas de nom.
Qui n'a pas de nom. Qui est la seule chose qui, je pense, j'ai été énormément attiré par elle, c'était par rapport à sa poitrine. Et ouais. Et j'avais plongé dans le petit bain vers elle en attrapant son corps et j'ai dit que je voulais sortir avec elle et que je savais pas pourquoi mais j'étais un peu, je pense que j'étais un peu lourd, hein. Personnellement, je pense que j'étais un peu lourd, mais elle a bien voulu. Ça, souvent, je me dis ce moment-là, tu vois, là, je suis en train de penser à ce moment-là et je me dis, j'étais un peu lourd. Je me trouvais un peu lourd. Mais en même temps, j'ai eu ce que je désirais avoir.
T'es pas malin sans te prendre la main, on t'emmenait près du terrain de sport caché, on découvrait ton corps et très souvent on perdait pas le nord, les yeux fermés. Bateau à terre, tes petits seins très clairs, on mélangeait le goût de la salive avec des parfums de lessive, respiration prétendument lascive, des yeux qui flambent, des jambes qui nous animent. Les vapeurs de l'été, nos mains précipitées vers l'inconnu, ça nous rendait plus forts, comme si dans ton aéroport, jamais la vie pour nous ne s'évapore. Et toi, tu semblais dire déchire. Abîme en moi, rien n'est sublime. On se parlait à peine, mais le bruit de nos veines nous rappelait l'orgasme et la tempête. J'avais plus le goût à la fête, alors dégage et remets tes lunettes. Tes yeux mouillés, la nuit qui s'illumine. Pourquoi rien ne